Bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'amphilouis de l'école militaire où je suis heureux de vous accueillir cet après-midi. J'accueille en votre nom la mémoire d'un officier de marine et d'un auteur de la revue Défense nationale, un grand ancien pour moi à double titre puisque je suis moi-même amiral et que je suis le rédacteur en chef de cette revue Défense nationale. C'est donc une façon importante de lui rendre hommage aujourd'hui que de se réunir pour évoquer l'homme, son œuvre et ses amitiés et aussi ses recherches avec la curiosité qui l'a caractérisé. Je vais diriger cet après-midi, je vais lui rendre hommage aussi à ma façon avec plusieurs pistes que je vous propose. La première pour rappeler quelques souvenirs. Je ne connaissais pas Xavier Salentin avant 1992, je n'avais pas entendu parler de ses travaux, je naviguais. Il se trouve qu'en 1992, j'ai hérité de la bibliothèque de mon père qui était mort peu de temps avant, et dans cette bibliothèque, j'ai trouvé ce livre que nous avons lu et qu'il avait lu aussi, qui était marqué d'une lecture en 1962 de la part de mon père. Et j'ai eu la curiosité d'ouvrir ce livre et de le lire, et de le lire entre Valparaiso et Tahiti. Je commandais à l'époque une frégate hein, et je faisais ce transit qui faisait environ 11 jours. C'est les 11 jours qu'il m'a fallu pour apprécier tous ces dialogues, toutes ces questions qu'il soulevait et qui, à l'époque, étaient pour moi très vivantes, même si le texte était ancien. En 1992, il résonnait encore très fort. C'est mon premier contact avec Xavier Salentin, un contact intellectuel, mais un contact en mer, avec la possibilité de m'évader le soir à la passerelle en repensant à ce que j'avais lu la nuit dans ma bannette. La deuxième contact que j'ai eu avec Salentin, c'était ici, à la Revue Défense nationale, quand ma curiosité piquait, a été de le faire venir, m'a conduit à le faire venir ici à la revue pour qu'il expose sa vision du sens, l'ensemble de son œuvre et le point des recherches qu'on en était rendu. Et comme j'avais le souci de mes lecteurs, je me disais qu'il était intéressant d'essayer de faire passer ses idées aux lecteurs de la RDN. Je suis, comme rédacteur en chef, le représentant des lecteurs auprès des auteurs. Et je me rendais bien compte que la complexité de sa pensée ou l'étendue, le volume, la profondeur de sa pensée nécessitait une mise au point pour l'adapter à la réalité du lecteur des années 2000. Et donc je l'ai convié et il s'est rendu et nous avons eu, avec plusieurs d'entre vous, une séance tout à fait intéressante dans laquelle je lui ai demandé de bien vouloir présenter sa vision des choses, sa vision du monde, sa vision stratégique, le lien qu'il y avait entre les questions de défense et les questions ontologiques et au fond de les rendre perceptibles. Et nous avons eu ce débat tout à fait intéressant dont je garde la mémoire et dont est sorti d'ailleurs un texte qu'il a validé, d'ailleurs difficilement, car les simplifications que je lui demandais ne lui plaisaient pas. Et il avait le souci du mot et donc j'ai fait connaissance non plus de l'homme, de l'œuvre, mais de l'homme et de sa personnalité. Maintenant qu'il a disparu, nous avons essayé de lui rendre, je dirais, le tribut que l'on doit à un auteur aussi fécond, aussi profond. Et lorsqu'il a disparu, ce que nous avons tous regretté, j'ai demandé au colonel Jean-Luc Lefebvre, ici présent, qui est peut-être l'un de ceux qui a le mieux étudié sa pensée, de vouloir lui rendre un dernier éloge. Et ceci est paru dans le numéro de janvier de la Revue Défense nationale. Vous le trouverez sur le site de la Revue Défense nationale. Nous continuons cet effort également de mettre sa pensée à la connaissance à la portée du plus grand nombre, dans le numéro qui était le numéro de février de la Revue Défense nationale, qui vient d'être bouclé hier, tout simplement, en faisant, je dirais, un dernier adieu. Ceci est fait par un de ses camarades de promotion, je vous laisserai découvrir qui. Et puis également en republiant un texte qu'il avait donné en mars 1958, dans la Revue Défense nationale, sous un pseudonyme Calendaire, dont nous ne savions pas que c'était de lui. Et nous avons appris depuis que c'est l'un des pseudonymes qu'il utilisait. Et nous pouvons révéler aujourd'hui que c'était lui qui avait écrit ce texte. Et je vous laisserai le découvrir dans le prochain numéro. Il sera également accessible sur la tribune, c'est-à-dire sur le site internet de la Revue Défense nationale. Mais je ne résiste pas quand même au plaisir de vous citer sa conclusion qui fait le lien entre le militaire qu'il a été, le chercheur qu'il est devenu, de la façon suivante. Et la thématique de mon numéro de la Revue Défense nationale du mois de février, la condition militaire, et donc ça tombe bien parce que le texte qu'il avait donné est un texte qui s'appelle « Évolution de la condition militaire ». C'était en 1958. Le contexte était différent, mais vous voyez qu'il a vous verrez tout de suite qu'il avait pris de la hauteur d'emblée et qu'au moment où la guerre d'Algérie pesait lourd sur la compréhension qu'avaient les militaires de leur métier et de leurs engagements, eh bien, il prenait tout de suite de la hauteur pour essayer de faire comprendre quelles étaient les relations entre la France et son armée, pour employer une formule connue. Alors, je le cite maintenant en deux petites phrases. « Repenser la condition militaire suppose d'abord une prise de conscience de la réalité totale de l'homme et de son insertion dans l'histoire. Le militaire peut récuser une telle réflexion, prétendant qu'étranger aux contradictions dialectiques, son action commence quand cesse le dialogue. Il succombe alors à la tentation de n'être qu'un outil, à la tentation de la simplicité, fuyant la complexité croissante du monde où est sa tâche. » Vous l'aurez déjà bien reconnu. Un peu plus loin, dans la dernière phrase de ce texte, le militaire a, plus que tout autre, le devoir de ne pas battre en retraite et d'affronter les réalités d'aujourd'hui et de demain avec le sang-froid et l'énergie propre aux combattants, en puisant l'immense capital accumulé par ses anciens et en tournant ses regards vers le terme que lui propose sa foi, le militaire trouvera des forces pour dominer ses contradictions intimes et pour continuer à faire l'histoire. Vous aurez vu là l'étendue, la profondeur de son tempérament de militaire et le lien entre sa vie militaire, que vous ne connaissez peut-être moins bien que sa vie de chercheur, est ainsi, je crois, établi par ces quelques mots que je viens de dire. La dernière façon de lui rendre hommage est pour moi tout simplement d'animer cet après-midi qui se terminera à 17h dans cet amphithéâtre et dans lequel nous aurons deux séquences. La première va être tournée vers le groupe Bénin, ou un de ces aéropages tout à fait brillants de ceux qui, appartenant au groupe ou proches de ce groupe, ont cherché avec lui à définir un certain nombre de règles ou à identifier un certain nombre de logiques ou de cohérences dans la planète que nous vivons. Et donc, ils vont évoquer chacun à sa façon l'une des facettes de la mosaïque que constituait ce tempérament fort qui a marqué chacun d'entre nous. La deuxième partie de cet après-midi sera consacrée à des témoignages de ceux d'entre vous qui voudront apporter des compléments pour évoquer cette personnalité forte et ceux d'entre vous qui voudront également poser des questions à ceux qui sont ici rassemblés pour évoquer sa mémoire. Et enfin, la dernière partie de cet après-midi donc, se conclura par quelques mots de Jean Salentin, son fils, ici présent, comme d'autres de sa famille, qui donnera quelques pistes et quelques repères sur ce qui va se passer maintenant, peut-être, dans l'œuvre, pour l'œuvre et les recherches de Xavier Salentin. Voilà, je ne me suis pas présenté, je suis l'amiral Dufourcq, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et c'est à ce titre que je vous accueille aujourd'hui à l'École militaire, puisque, comme vous le savez, la revue Défense Nationale, une vieille revue qui a 72 ans d'existence, est implantée sur ce site depuis bien longtemps et à la charge d'animer le débat stratégique français, ce qu'elle fait avec d'autant plus de plaisir que ça lui permet de trouver le contact, d'avoir le contact avec des chercheurs de grande ampleur, comme fut Xavier Salentin. Je m'arrête là dans cette introduction, dans cette mise en place des éléments. Et je passe la parole au premier des intervenants qui va peut-être nous parler d'abord. Non, ce n'est pas vous le premier, pardonnez-moi, c'est Jean-Luc Lefebvre qui va nous parler de Xavier Salentin, le stratégiste. Jean-Luc, c'est à vous.
Oui,